From the conference center at Temple Square in Salt Lake.
Ici, le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City. Vous allez assister à la 181e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session sera interprétée par le chœur du Tabernacle Mormon. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.
President Henry B. Eyring,
Henry B. Eyring, premier conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session.
Brothers and sisters,
mes frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue ce matin à la quatrième session de la 181e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Comme nous l'avons précisé hier matin, nous remarquons que c'est en avril 1936 qu'Heber J. Grant, alors président de l'Église, a annoncé l'établissement d'un programme d'entraide dirigé de manière centralisée et appelé « Plan de sécurité de l'Église ». Cette conférence marque le 75e anniversaire de ce qu'on appelle maintenant le programme d'entraide de l'Église, qui a été une bénédiction pour d'innombrables vies au fil des années. La musique de cette session sera interprétée par le chœur du Tabernacle, sous la direction de Mac Wilberg, avec Richard Elliott et Andrew Unworth à l'orgue. Le chœur a ouvert cette session en chantant « Rocher du salut suprême ». Il interprétera maintenant « Sabbaté ». Gary et Stevenson, des 70, fera ensuite la prière d'ouverture.
Thank you. Our Father in heaven,
notre Père qui est aux cieux, nous nous rassemblons de monde entier pour cette conférence générale, reconnaissant d'avoir du prophète vivant, président Monson, la première présidence et le Collège des Douze. Nous les honorons et nous les soutenons. Nous sommes reconnaissants pour le rétablissement, en particulier des clés de la prêtrise. Récemment, des calamités naturelles et politiques ont fait souffrir beaucoup de tes enfants. Nous te demandons de les réconforter, de les bénir. En particulier, on inclut ceux qui sont au Japon, qu'ils puissent ressentir ton aide. Et nous voulons te demander aussi, Père Céleste, de nous bénir, tandis que nous cherchons à garder tes commandements et nos engagements, afin que nous puissions goûter du fruit de l'expiation de ton Fils, Jésus-Christ. Nous t'offrons cette prière d'ouverture au nom sacré de ton Fils, Jésus-Christ. Amen.
The choir will now sing.
Le chœur va maintenant interpréter « Peuple du monde, écoutez donc ». Après ce cantique, Dieter F. Uhrdorf, deuxième conseiller dans la première présidence, nous adressera la parole. Après quoi, nous entendrons Paul V. Johnson des 70. Il sera suivi de H. David Burton, évêque président de l'Église.
Come, ye patient, see your heavens fall.
What a marvelous choir.
Quel chœur magnifique. L'un des événements les plus remarquables de l'histoire du monde s'est déroulé sur le chemin de Damas. Vous connaissez bien l'histoire de Saul, jeune homme qui ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, faisant jeter les saints en prison. Il était si hostile que beaucoup de membres de l'église primitive avaient fui Jérusalem dans l'espoir d'échapper à sa colère. Saul les pourchassa, mais comme il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ?» Ce moment transformateur changea Saul à jamais. En fait, il a changé le monde. Nous savons que de telles manifestations se produisent. En fait, nous témoignons qu'une manifestation divine similaire s'est produite en 1820 pour un garçon appelé Joseph Smith. Nous avons le témoignage clair et certain que les cieux sont de nouveau ouverts et que Dieu parle à ses prophètes et apôtres. Dieu entend les prières de ses enfants et y répond. Néanmoins, il y a des gens qui pensent qu'à moins d'avoir une manifestation semblable à celle de Saul ou de Joseph Smith, ils ne peuvent pas croire. Ils sont sur les bords des eaux du baptême, mais n'y entrent pas. Ils attendent au seuil d'un témoignage, mais ils ne peuvent se résoudre à reconnaître la vérité. Au lieu de faire avec foi des petits pas pour devenir des disciples, ils veulent qu'un événement spectaculaire les oblige à croire. Ils passent leur temps à attendre sur le chemin de Damas. Une brave sœur avait été membre fidèle de l'Église toute sa vie, mais elle avait un chagrin d'ordre personnel. Des années auparavant, sa fille était morte après une courte maladie, et les blessures de cette tragédie la hantaient toujours. Les questions profondes qui accompagnent un tel événement la taraudaient. Elle admettait franchement que son témoignage n'était pas ce qu'il avait été. Elle pensait que si les cieux ne s'ouvraient pas pour elle, elle ne pourrait jamais plus croire. Elle se retrouvait à attendre. Il y a beaucoup d'autres gens qui, pour différentes raisons, se retrouvent à attendre sur le chemin de Damas. Ils reportent le moment de s'engager totalement en tant que disciples. Ils espèrent recevoir la prêtrise, mais hésitent à mener une vie digne de ce privilège. Ils désirent aller au temple, mais repoussent l'acte de foi final pour se qualifier. Ils restent à attendre qu'on leur donne le Christ, comme un magnifique tableau de Karl Bloch, pour enlever une fois pour toutes leurs doutes et leurs craintes. La vérité est que les personnes qui cherchent diligemment à apprendre qui est le Christ finiront par le connaître. Elles recevront personnellement un portrait divin du Maître, bien qu'il vienne le plus souvent sous la forme d'un puzzle, un morceau à la fois. Chaque morceau peut ne pas être facilement reconnaissable. On peut ne pas voir clairement quelle est sa place dans l'ensemble. Chaque morceau nous aide à voir un peu plus clairement l'ensemble de l'image. Finalement, quand suffisamment de morceaux ont été assemblés, nous reconnaissons la grande beauté de l'ensemble. Puis, en repensant à notre parcours, nous voyons que le Sauveur est bienvenu avec nous, pas tout d'un coup, mais discrètement, en douceur, presque imperceptiblement. C'est ce qui peut nous arriver si nous avançons avec foi et n'attendons pas trop longtemps sur le chemin de Damas. Je vous témoigne que notre Père Céleste aime ses enfants. Il vous aime, il nous aime. Lorsque ce sera nécessaire, le Seigneur va même vous porter au-dessus d'obstacles si vous recherchez sa paix avec le cœur brisé et l'esprit contrit. Il nous parle souvent d'une manière que nous ne pouvons pas entendre, que nous ne pouvons entendre qu'avec le cœur. Pour mieux entendre sa voix, il serait sage de baisser le volume du bruit du monde dans notre vie. Si nous ignorons ou bloquons les inspirations de l'esprit, pour quelque raison que ce soit, elles deviennent de plus en plus imperceptibles, jusqu'à ce que nous ne puissions plus les entendre du tout. Apprenons à écouter les inspirations de l'esprit, puis à nous empresser de les suivre. Notre prophète bien-aimé, Thomas Monson, est notre exemple dans ce domaine. Les récits de l'attention qu'il porte au chuchotement de l'esprit sont nombreux. Frère Holland en raconte un. Je cite. Un jour, alors que le président Monson était en service en Louisiane, un président de pieux lui a demandé s'il aurait le temps d'aller voir une fillette de 10 ans nommée Crystal qui était au dernier stade d'un cancer. La famille de Crystal avait prié pour que le président Monson vienne. Mais elle habitait loin de là et l'emploi du temps était si serré que le temps manquait. Alors le président Monson a demandé que les personnes qui allaient faire les prières lors de conférences de pieux prient aussi pour Crystal. Le Seigneur et la famille comprendraient sûrement. Durant la session du samedi de la conférence, comme le président Monson s'est levé pour parler, l'esprit a murmuré « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Ses notes se sont brouillées, il a essayé de suivre le thème de la réunion comme prévu, mais le nom et l'image de la petite fille ne lui sortaient pas de l'esprit. Il a écouté l'esprit et a modifié son emploi du temps. Le lendemain, au petit matin, le président Monson a quitté les 99 brebis et a fait de nombreux kilomètres pour être au chevet de celle qui avait besoin de lui. Une fois arrivé, il a regardé l'enfant qui était trop malade pour se lever, trop faible pour parler. Sa maladie l'avait à présent rendu aveugle. Profondément touché par la scène et l'esprit du Seigneur, frère Monson a pris la main frêle de l'enfant dans la sienne. Il lui a murmuré « Crystal, je suis là ». Faisant un grand effort, elle lui a murmuré « Frère Monson, je savais que vous viendriez ». Fin de citation. Mes chers frères et sœurs, efforçons-nous de faire partie de ceux sur qui le Seigneur peut compter pour écouter ses murmures et les suivre, comme l'a fait Saul sur son chemin de Damas. Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Une autre raison pour laquelle parfois nous ne reconnaissons pas la voix du Seigneur est que les révélations de l'Esprit ne nous viennent pas toujours directement comme la réponse à nos prières. Notre Père Céleste veut que nous commencions par étudier le sujet, puis que nous prions pour être guidés, tandis que nous cherchons la réponse à nos questions et à nos problèmes personnels. Nous avons l'assurance de notre Père Céleste qu'il entendra nos prières et y répondra. La réponse peut venir par la voix et la sagesse d'amis de confiance ou de la famille, par les Écritures et les paroles de prophètes. J'ai constaté que certaines des inspirations les plus fortes que nous recevons ne sont pas seulement pour notre bénéfice, mais aussi pour celui d'autres personnes. Si nous ne pensons qu'à nous-mêmes, nous risquons de manquer certaines des expériences spirituelles les plus fortes et des révélations les plus profondes de notre vie. Le président Kimball a enseigné ce concept quand il a dit « Dieu nous remarque et il veille sur nous ». Mais c'est généralement par l'intermédiaire d'une autre personne qu'il répond à nos besoins. Par conséquent, il est vital de nous servir mutuellement. Frères et sœurs, nous avons tous contacté, par alliance, la responsabilité d'être sensibles aux besoins d'autrui et de servir comme le Seigneur l'a fait pour aller vers les gens qui nous entourent, leur faire du bien et les réconforter. Souvent, la réponse à notre prière ne vient pas quand nous sommes à genoux, mais quand nous sommes debout à servir le Seigneur et les gens qui nous entourent. Les actes de service généreux et la consécration raffinent notre esprit, enlèvent les écailles de nos yeux spirituels et ouvrent les écluses des cieux. En devenant la réponse à la prière de quelqu'un, nous trouvons souvent la réponse à la nôtre. Il arrive que le Seigneur nous révèle des choses qui nous sont destinées à nous uniquement. Mais dans de très nombreux cas, il confie le témoignage de la vérité aux personnes qui le transmettront. Cela a été le cas de tous les prophètes depuis l'époque d'Adam. Plus encore, le Seigneur attend des membres de son Église qu'ils ouvrent la bouche en tout temps, annonçant son Évangile d'une voix pleine d'allégresse. Ce n'est pas toujours facile. Certains préféreraient tirer une charrette à travers la plaine désertique plutôt que d'aborder le sujet de la foi et de la religion avec leurs amis et leurs collègues. Ils ont peur de la manière dont cela pourrait être perçu ou détruire leurs relations. Ce ne sera pas forcément le cas, parce que nous avons un message joyeux à transmettre, un message d'allégresse. Il y a des années, notre famille vivait et travaillait parmi des gens qui, dans presque tous les cas, n'étaient pas de notre religion. Lorsqu'ils nous demandaient comment s'était passé notre week-end, nous essayons de sauter les sujets habituels, par exemple les événements sportifs, les films ou le temps qu'il fait, pour essayer de parler d'expériences religieuses que nous avions eues en famille. Par exemple, ce qu'un jeune orateur avait dit sur les principes énoncés dans « Jeune, soyez fort » ou les paroles touchantes d'un jeune homme qui partait en mission, ou comment l'Évangile et l'Église avaient aidé notre famille à surmonter une difficulté particulière. Nous essayons de ne pas avoir l'air de prêcher ni d'être trop pesant. Ma femme, Harriet, était toujours la meilleure pour trouver quelque chose d'inspirant, d'édifiant ou d'amusant à dire. Cela conduisait souvent à des discussions plus profondes. Il est intéressant de noter que lorsque nous parlions des difficultés de la vie avec des amis, ils disaient souvent « C'est facile pour vous, vous avez votre Église. » Avec tant de moyens de communication et une multitude de gadgets plus ou moins utiles à notre disposition, il est plus facile de transmettre la bonne nouvelle de l'Évangile. Et les effets sont de plus grande portée que jamais auparavant. En fait, j'ai bien peur que certains qui m'écoutent aient déjà envoyé des messages électroniques disant quelque chose comme « Il parle depuis 10 minutes et toujours pas d'analogie avec l'aviation. » Mes jeunes amis, peut-être la recommandation du Seigneur d'ouvrir la bouche est-elle de nos jours être aussi d'utiliser nos mains pour transmettre la bonne nouvelle de l'Évangile par texto ou blog au monde entier. Mais n'oubliez pas qu'il faut le faire au bon moment et au bon endroit. Frères et sœurs, avec les bénédictions de la technologie moderne, nous pouvons exprimer notre reconnaissance et notre joie pour le grand plan de Dieu pour ses enfants d'une manière qui peut être entendue non seulement là où nous travaillons, mais également dans le monde entier. Parfois, une simple expression de témoignage peut déclencher des événements qui toucheront la vie de quelqu'un pour l'éternité. Le moyen le plus efficace de prêcher l'Évangile, c'est l'exemple. Nous le savons. Si nous menons une vie en accord avec nos croyances, les gens le remarqueront. Si notre vie est empreinte de l'image de Jésus-Christ, si nous sommes joyeux et en paix avec le monde, les gens voudront savoir pourquoi. L'un des plus grands sermons jamais prononcés sur l'œuvre missionnaire est cette pensée toute simple attribuée à Saint François d'Assise. Prêche tout le temps l'Évangile et, si nécessaire, utilise des mots. Nous avons tout autour de nous des occasions de le faire. Ne les manquez pas en attendant trop longtemps sur le chemin de Damas. Je témoigne que le Seigneur parle à ses prophètes et apôtres à notre époque. Il parle aussi à tous ceux qui vont à lui avec le cœur sincère et une intention réelle. Ne doutez pas, n'oubliez pas. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Dieu vous aime. Il entend vos prières. Il parle à ses enfants et offre la consolation, la paix et la compréhension à ceux qui le recherchent et l'honorent en suivant son chemin. Je rends mon témoignage sacré que l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours est sur le bon chemin. Elle est dirigée, elle est un prophète vivant, elle est dirigée par celui dont nous portons le nom, à savoir le Sauveur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, chers amis, n'attendons pas trop longtemps sur notre chemin de Damas, mais allons courageusement de l'avant avec foi, espérance et charité, et nous aurons la bénédiction d'avoir lumière, la lumière que nous recherchons tous sur le chemin des vrais disciples. C'est là ma prière, et je vous donne ma bénédiction, au nom de Jésus-Christ. Amen.
La vie sur terre comprend des tests, des épreuves et des tribulations. Et certaines des épreuves que nous connaissons peuvent être atroces. Que ce soit la maladie, la trahison, les tentations, la perte d'un être cher, les catastrophes naturelles ou toute autre épreuve, les afflictions font partie de notre expérience mortelle. Beaucoup se sont demandé pourquoi nous devions affronter certaines épreuves difficiles. Nous savons qu'une des raisons et de faire en sorte que notre foi soit mise à l'épreuve pour voir si nous ferons tout ce que le Seigneur nous a commandé. Heureusement, cette condition mortelle est le cadre idéal pour affronter et réussir ces épreuves. Mais ces épreuves ne servent pas qu'à nous tester. Elles sont d'une importance vitale au processus d'acquisition de la nature divine. Si nous gérons correctement ces afflictions, elles seront consacrées à notre avantage. Orson Whitney a dit « Aucune souffrance que nous connaissons, aucune des épreuves que nous traversons n'est vaine. Tout ce que nous subissons et tout ce que nous endurons, surtout lorsque nous l'endurons patiemment, fortifie notre personnalité, nous purifie le cœur, nous épanouit l'âme et nous rend plus tendre et plus charitable. » C'est par le chagrin et la souffrance, le labeur et les épreuves que nous acquérons l'éducation que nous sommes venus ici chercher ici-bas. Récemment, on a diagnostiqué un cancer rare des os chez un garçon de 9 ans. Le médecin a expliqué le diagnostic et le traitement qui prévoyait des mois de chimiothérapie et une grosse opération. Il a dit que ce serait une période très difficile pour le garçon et sa famille. Puis il a ajouté, « Les gens me demandent, est-ce que je serai toujours le même quand ce sera terminé ?» Je leur réponds, « Non, vous ne serez plus le même. Vous serez bien plus fort. Vous serez impressionnant. » Il peut sembler parfois que nos épreuves se focalisent sur les domaines de notre vie et les parties de notre âme que nous semblons être le moins capables d'affronter. Puisque le développement personnel est le résultat voulu de ces difficultés, il n'est pas surprenant que ces épreuves puissent être très personnelles, presque guidées par un laser, vers nos besoins particuliers ou nos faiblesses. Et personne n'y échappe, surtout pas les saints qui s'efforcent de faire ce qui est juste. Certains saints obéissants demanderont peut-être « Pourquoi moi, j'essaye d'être bien ? Pourquoi le Seigneur permet-il que cela se produise ?» La fournaise de l'adversité aide à purifier même les meilleurs saints en consumant les impuretés dans leur vie et en ne laissant que de l'or pur. Même le minerai le plus riche a besoin d'être raffiné pour éliminer les impuretés. Être bon n'est pas suffisant. Nous voulons devenir comme le Sauveur qui a appris en subissant des souffrances, des afflictions et des tentations de toute espèce. La piste pourpre dans le canyon de Logan est une de mes randonnées préférées. La partie principale de la piste serpente le long du sommet de grandes falaises de calcaire et offre de beaux panoramas du canyon et de la vallée en contrebas. Atteindre le sommet des falaises n'est cependant pas simple. La piste grimpe sans arrêt. Et juste avant d'atteindre le sommet, le grimpeur affronte la partie la plus escarpée de la piste. Et les vues du canyon sont cachées par les falaises mêmes. L'effort final en vaut plus que la peine, parce qu'une fois qu'on est au sommet, le panorama est à couper le souffle. La seule façon de le voir est de faire l'ascension. Un processus qui apparaît dans les Écritures et dans la vie montre que, bien des fois, les épreuves les plus sombres et les plus dangereuses précèdent immédiatement des événements remarquables et un développement formidable. C'est après beaucoup de tribulations que viennent les bénédictions. Les enfants d'Israël étaient coincés par la mer Rouge avant qu'elle ne soit divisée. Néphi a bravé le danger, la colère de ses frères et de multiples échecs avant de pouvoir se procurer les plaques d'airain. Joseph Smith fut saisi par une puissance maléfique si forte qu'il semblait qu'il était condamné à une destruction soudaine. Au moment même où il était prêt à sombrer dans le désespoir, il fit de grands efforts pour implorer Dieu. Et, juste à cet instant, il reçut la visite du Père et du Fils. Souvent, les amis de l'Église doivent affronter de l'opposition et des tribulations à l'approche de leur baptême. Les mères savent que les difficultés de l'accouchement précèdent le miracle de la naissance. Maintes et maintes fois, nous voyons de merveilleuses bénédictions succéder à de grandes épreuves. Quand ma grand-mère avait environ 19 ans, elle a contracté une maladie qui l'a rendue très souffrante. Elle a dit plus tard, « Je ne pouvais pas marcher. Mon pied gauche était tout déformé parce que je suis resté alité pendant plusieurs mois. Les os étaient mous comme une éponge. Et quand je posais le pied au sol, cela me faisait l'effet d'un choc électrique. » C'est pendant qu'elle était alitée et qu'elle souffrait le plus qu'elle a reçu et étudié des brochures de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Elle s'est convertie et a plus tard été baptisée. Souvent, une difficulté particulière nous prépare pour quelque chose d'une importance vitale. Quand on est au milieu de ces problèmes, il est pratiquement impossible de voir que les bénédictions à venir sont de loin plus importantes que la souffrance, l'humiliation ou le chagrin que nous pouvons ressentir à ce moment-là. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi éprouvés, un fruit paisible de justice. L'apôtre Paul enseigne « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Il est intéressant de voir que Paul utilise le terme « légères afflictions ». Cette expression est utilisée par quelqu'un qui a été battu, lapidé, naufragé, emprisonné et qui a connu beaucoup d'autres épreuves. Je doute que beaucoup d'entre nous qualifieraient leurs afflictions de légères. Pourtant, comparé aux bénédictions et à l'épanouissement que nous finissons par recevoir tant dans cette vie et dans l'éternité, nos afflictions sont vraiment légères. Nous ne cherchons ni les épreuves, ni les tribulations. Notre voyage personnel dans la vie nous fournira juste la bonne quantité qu'il faut pour nos besoins. Beaucoup d'épreuves font tout naturellement partie de la condition mortelle, mais elles jouent un rôle extrêmement important dans notre progression. Au moment où son ministère terrestre s'achevait, le Sauveur connut la plus grande épreuve de tous les temps, la souffrance incroyable à Gethsémané et au Golgotha. Cela précéda la résurrection glorieuse et la promesse qu'un jour toutes nos souffrances auront une fin. Ses souffrances étaient un préalable au tombeau vide, ce matin-là de Pâques, et à notre immortalité et à notre vie éternelle future. Parfois, nous voulons progresser sans difficulté et acquérir de la force sans lutter. Mais la progression n'est pas possible quand on choisit le moindre effort. Nous comprenons bien qu'un athlète qui refuse de s'entraîner rigoureusement ne deviendra jamais un athlète de classe mondiale. Nous devons faire attention de ne pas exécrer les choses mêmes qui nous aident à acquérir la nature divine. Aucune des épreuves et des tribulations que nous affrontons n'est au-delà de nos capacités, parce que nous avons accès à l'aide du Seigneur. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Après s'être rétabli de graves problèmes de santé, Robert D. Hales a dit ce qui suit en conférence générale. À certaines occasions, j'ai dit au Seigneur que j'avais sûrement appris les leçons qu'il m'enseignait et qu'il ne serait pas nécessaire que je souffre davantage. De telles instances ne semblaient servir à rien, car on me fit comprendre que ce processus purificateur de mise à l'épreuve devait être subi au temps et à la façon du Seigneur. J'ai appris que je ne serais pas laissé seul pour affronter ces épreuves et ces tribulations, mais que les anges gardiens m'assisteraient. Certains s'en approchaient sous la forme de médecins, d'infirmières et surtout de ma douce compagne, Marie. Et à certains moments, quand le Seigneur l'a voulu, j'ai été consolé par des visitations d'armées célestes qui m'ont apporté le réconfort et des garanties éternelles quand j'en avais besoin. Notre Père Céleste nous aime et nous savons que quiconque place sa confiance en Dieu sera soutenu dans ses épreuves et ses difficultés et ses afflictions et sera exalté au dernier jour. Un jour, lorsque nous serons de l'autre côté du voile, nous voudrons entendre plus qu'un simple « ça y est, c'est fini ». Nous voudrons plutôt entendre le Seigneur nous dire « c'est bien ». Bon et fidèle serviteur. J'aime les paroles de Paul. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je sais que Dieu vit et que son Fils Jésus-Christ vit. Je sais aussi qu'avec leur aide, nous pouvons être plus que vainqueurs des tribulations que nous devons affronter dans cette vie. Nous pouvons devenir semblables à eux, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Good morning, brothers and sisters.
Bonjour mes frères et sœurs. En 1897, le jeune David O'Mackay se tenait devant une porte, un prospectus à la main. Missionnaire à Stirling, en Écosse, il avait déjà fait cela de nombreuses fois. Mais ce jour-là, une femme aux traits tirés ouvrit la porte. Elle était pauvrement vêtue, avec les joues creuses, et elle n'était pas coiffée. Elle prit le prospectus que frère Mackay lui tendait et prononça 9 mots qu'il n'allait jamais oublier. Est-ce que cela va me payer du pain? Cette rencontre fit une impression durable sur le jeune missionnaire. Il écrivit plus tard: à partir de ce moment, j'ai mieux compris que l'Église du Christ doit s'intéresser et s'intéresse au salut temporel de l'homme. Je me suis éloigné avec le sentiment que cette femme le cœur aigri vis-à-vis des hommes et de Dieu, n'était pas en mesure de recevoir le message de l'Évangile. Elle avait besoin d'aide temporelle et il n'y avait pas, pour autant que je sache, d'organisation à Sterling qui pouvait la lui apporter. Fin de citation. Quelques décennies plus tard, le monde gémissait sous le fardeau de la Grande Dépression. C'est à cette époque, le 6 avril 1936, qu'Heber J. Grant, président de l'Église, et ses conseillers, J. Reuben Clark et David O. McKay, annoncèrent ce qui allait par la suite s'appeler le programme d'entraide de l'Église. Deux semaines plus tard, Melvin J. Ballard en était appelé premier président et Harold B. Lee, premier directeur général. Ce n'était pas une entreprise ordinaire. Le Seigneur avait suscité des âmes remarquables pour l'administrer. Mais J. Reuben Clark expliqua, je cite, « La mise en place du mécanisme de l'entraide est le résultat de la révélation par le Saint-Esprit au président Grant. Et elle a été poursuivie depuis par des révélations équivalentes aux frères qui en ont eu la charge. » Fin de citation. L'engagement des dirigeants de l'Église de soulager la souffrance humaine était aussi certaine qu'irrévocable. Le président Grant voulait un système qui irait vers les gens et prendrait soin d'eux, quel qu'en soit le coût. Il dit qu'il irait même jusqu'à fermer les séminaires, arrêter l'œuvre missionnaire pendant un temps, ou même fermer les temples, mais qu'on ne laisserait pas les gens avoir faim. J'étais aux côtés du président Hinckley à Managua, au Nicaragua, quand il s'est adressé à 1300 membres de l'Église survivants d'un cyclone dévastateur qui avait fait plus de 19 000 morts. Il leur a dit, « Tant que l'Église en aura les moyens, nous ne vous laisserons pas avoir faim ou être sans vêtements ou sans abri. Nous ferons tout ce que nous pourrons pour vous aider de la manière voulue par le Seigneur. » L'une des caractéristiques distinctes de cet effort inspiré basé sur l'Évangile est l'accent qu'il met sur la responsabilité personnelle et sur l'autonomie. Marion G. Romney explique, « Beaucoup de programmes ont été mis en place par des personnes bien intentionnées pour aider les nécessiteux. Mais beaucoup de ces programmes sont conçus avec l'objectif à courte vue d'aider les gens plutôt que d'aider les gens à se prendre en charge. L'autonomie est le produit d'une vie prévoyante et de l'exercice d'une autodiscipline financière. Depuis le début, l'Église enseigne que la famille, dans la mesure de ses possibilités, doit assumer la responsabilité de son bien-être temporel. Chaque génération doit réapprendre les principes de base de l'autonomie. Éviter les dettes. Appliquer des principes d'économie. Se préparer pour les temps de détresse. Écouter et suivre les paroles des oracles vivants. Acquérir la discipline de distinguer entre les besoins et les désirs et vivre en conséquence. L'objectif, les promesses et les principes qui sous-tendent nos efforts pour veiller sur les pauvres et les nécessiteux s'étendent bien au-delà de la condition mortelle. Cette œuvre sacrée n'est pas destinée à aider et bénir seulement les personnes qui souffrent ou sont dans le besoin. En tant que fils et filles de Dieu, nous ne pouvons pas hériter d'une pleine mesure de la vie éternelle sans nous investir totalement dans la sollicitude des uns envers les autres, tandis que nous sommes ici sur terre. C'est dans le processus bienveillant du sacrifice et du don de nous-mêmes pour d'autres que nous apprenons les principes célestes du sacrifice et de la consécration. Le grand roi Benjamin a enseigné que l'une des raisons pour lesquelles nous donnons de nos biens aux pauvres et les aidons est pour que nous puissions conserver de jour en jour le pardon de nos péchés afin de marcher innocent devant Dieu. Depuis la fondation du monde, le tissu des sociétés justes a toujours été fait des fils dorés de la charité. Nous aspirons à un monde en paix et à des collectivités prospères. Nous prions pour avoir des sociétés bienveillantes et vertueuses, où la méchanceté est délaissée, où la bonté et le bien règnent. Peu importe le nombre de temples que nous construisons, la progression du nombre de nos membres, la bonne image que nous avons aux yeux du monde, si nous n'arrivons pas à suivre le commandement primordial d'aller au secours des faibles, de fortifier les mains languissantes et d'affermir les genoux qui chancellent, ou si nous nous détournons des gens qui souffrent et qui pleurent, nous sommes sous la condamnation et ne pouvons pas être agréables au Seigneur. Et notre espérance radieuse sera toujours distante. De par le monde, 27 000 évêques cherchent les pauvres pour pourvoir à leurs besoins. Chaque évêque est aidé par un conseil de paroisse composé de dirigeants de la prêtrise et d'auxiliaires, dont une présidente de cette secours dévouée. Ils peuvent, je cite, « voler au secours des étrangers, verser de l'huile et du vin sur le cœur blessé des gens dans la détresse, sécher les larmes des orphelins et réjouir le cœur des veuves. » Le cœur des membres et des dirigeants de l'Église partout dans le monde est positivement influencé et guidé par la doctrine et l'esprit divin de l'amour de leur prochain et de leur sollicitude pour lui. Un dirigeant de la prêtrise d'Amérique du Sud était accablé par la faim et les privations des membres de son petit pieu. Ne voulant pas que les enfants souffrent de la faim, il a trouvé un bout de terrain en friche et a organisé la prêtrise pour le cultiver. Ils ont trouvé un vieux cheval, l'ont attelé à une charrue primitive et ont commencé à travailler la terre. Mais avant qu'ils puissent terminer, le malheur les a frappés et le vieux cheval est mort. Plutôt que de laisser leurs frères et sœurs avoir faim, les frères de la prêtrise se sont attelés à la vieille charrue et l'ont tirée pour retourner la terre ingrate. Ils ont littéralement pris sur eux le joug de la souffrance et des fardeaux de leurs frères et sœurs. Un exemple tiré de mon histoire familiale illustre l'engagement de prendre soin des gens dans le besoin. Beaucoup ont entendu parler des convois de charrettes à bras, Willie et Martin, des souffrances et de la mort qu'ont connues de fidèles pionniers subissant le froid de l'hiver et les privations sur leur route vers l'ouest. Robert Taylor Burton, l'un de mes arrière-arrière-grands-pères, était l'un de ceux auxquels Brigham Young a demandé de porter secours à ses chers saints désespérés. À propos de ce moment, mon ancêtre a écrit dans son journal « Neige profonde et très froide, si froide que nous ne pouvions pas bouger. Thermomètre 11 degrés en dessous de zéro. Si froid que les gens ne pouvaient pas voyager. Des provisions destinées à les sauver ont été distribuées aux saints bloqués, mais en dépit de tout ce qui a pu être fait, beaucoup ont été enterrés sur le bord du chemin. Tandis que les saints secourus longeaient un tronçon de la piste qui traversait Echo Canyon, plusieurs chariots se sont arrêtés pour aider à la mise au monde d'une petite fille. Robert s'est aperçu que la jeune mère n'avait pas suffisamment de vêtements pour tenir son nouveau-né au chaud. Malgré la température glaciale, Il a enlevé sa chemise faite maison et l'a donnée à la mère pour envelopper le bébé. L'enfant fut appelé Echo, Echo Squires, en souvenir du lieu et des circonstances de sa naissance. Des années plus tard, Robert a été appelé dans l'épiscopat président de l'Église, où il œuvra pendant plus de 30 ans. À 86 ans, Robert Taylor Burton est tombé malade. Il a réuni sa famille à son chevet pour lui donner une dernière bénédiction. Parmi ses derniers mots, il y avait ce conseil simple mais profond. Soyez bons pour les pauvres. Frères et sœurs, nous rendons hommage à ces géants innovateurs que le Seigneur a suscités pour organiser et gérer l'aide institutionnelle aux membres nécessiteux de son Église. Nous rendons hommage à notre époque, aux gens qui, d'innombrables façons, souvent en silence, sont bons pour les pauvres, nourrissent les affamés, habillent ceux qui sont nus, soignent les malades et rendent visite aux prisonniers. C'est l'œuvre sacrée que le Sauveur attend de ses disciples. C'est l'œuvre qu'il aimait quand il parcourait la terre. C'est l'œuvre que je sais que nous le verrions accomplir s'il était parmi nous aujourd'hui. Il y a 75 ans, un système consacré au salut spirituel et temporel de l'humanité est parti d'humbles débuts. Depuis lors, il a ennobli la vie de dizaines de millions de personnes partout dans le monde et a été une bénédiction pour elles. Le plan d'entraide prophétique n'est pas simplement une note de bas de page intéressante dans l'histoire de l'Église. Les principes sur lesquels il repose définissent le peuple que nous sommes. C'est l'essence de ce que nous sommes en tant que disciples de notre Sauveur et exemple, Jésus le Christ. Prendre soin les uns des autres et être bon pour les pauvres est une œuvre sanctifiante, commandée par le Père et divinement conçue pour bénir, raffiner et exalter ses enfants. Puissions-nous suivre la recommandation du Sauveur à un docteur de la loi dans la parabole du bon samaritain. Va, et toi, fais de même. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen.
The choir and congregation
Le chœur et l'assemblée vont maintenant chanter. Mettons de l'ardeur. Après ce chant, Sylvia H. Allred, première conseillère dans la présidence générale de la Société de secours, s'adressera à nous. Après le discours de Sœur Allred, nous entendrons David A. Bednar du Collège des Douze Apôtres. Le chœur va maintenant chanter. Chantera ensuite Have I Done Any Good?
This is the 181st annual General Conference.
Vous assistez à la 181e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
Thank you. Depuis le début des temps, le Seigneur a enseigné que pour devenir son peuple, nous devons être d'un seul cœur et d'un seul esprit. Le Sauveur a aussi expliqué que les deux grands commandements de la loi sont « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée » et « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Enfin, peu après l'organisation de l'Église, le Seigneur a commandé aux saints de rendre visite aux pauvres et aux nécessiteux et de leur apporter du soulagement. Quel est le thème commun à tous ces commandements? C'est que nous devons nous aimer les uns les autres et nous servir les uns les autres. C'est en fait ce que signifie fondamentalement être disciple dans la véritable Église de Jésus-Christ. La célébration des 75 ans du programme d'entraide de l'Église nous rappelle les objectifs de l'entraide qui sont d'aider les membres à se prendre en charge pour devenir autonomes, de s'occuper des pauvres et des nécessiteux et de rendre service. L'Église a organisé ses ressources pour aider les membres à assurer leur bien-être physique, spirituel, social et émotionnel, ainsi que celui de leur famille et d'autres personnes. La fonction d'évêque comporte la charge spéciale de prendre soin des pauvres et des nécessiteux et de gérer ses ressources pour les membres de sa paroisse. Il est aidé dans ses efforts par les collèges de la prêtrise, la société de secours et en particulier les instructeurs au foyer et les instructrices visiteuses. La société de secours a toujours été au cœur de l'entraide. Lorsque Joseph Smith, le prophète, a organisé la société de secours en 1842, il a dit aux femmes « Ceci est le commencement de jours meilleurs pour les pauvres et les nécessiteux. » Il a dit aux sœurs que cette société aurait pour but de veiller sur les pauvres, les nécessiteux, les veuves et les orphelins, et d'accomplir toutes sortes de bonnes œuvres. Il a ajouté « Elle versera de l'huile et du vin sur le cœur blessé des personnes dans le besoin. Elle essuiera les larmes de l'orphelin et fera se réjouir le cœur de la veuve. » Il a aussi déclaré que la société de secours pourrait pousser les frères à de bonnes œuvres en s'occupant des besoins des pauvres, en recherchant des personnes à aider et en répondant à leurs besoins. Aider en corrigeant la moralité et en fortifiant les vertus de la communauté. Les hommes et les femmes de l'Église travaillent aujourd'hui conjointement à porter secours aux gens qui sont dans le besoin. Les détenteurs de la prêtrise fournissent une aide essentielle aux personnes qui ont besoin d'être guidées et aidées spirituellement. Des instructeurs au foyer inspirés font du bien et apportent les bénédictions de l'Évangile à chaque famille. De plus, ils apportent leur force et leur talent d'autres façons. Par exemple, en aidant une famille qui a besoin de réparation chez elle, en aidant une famille à déménager ou en aidant un frère à trouver l'emploi dont il a besoin. Les présidentes de la société de secours vont chez les gens pour évaluer les besoins pour l'évêque. Des instructrices visiteuses inspirées veillent sur les sœurs et les familles et prennent soin d'elles. Elles sont souvent les premières à répondre dans les moments de besoin immédiats. Les sœurs de la société de secours fournissent des repas, rendent des services compatissants et apportent un soutien constant dans les moments d'épreuve. Les membres de l'Église du monde entier se sont réjouis dans le passé et doivent se réjouir maintenant des occasions que nous avons de servir les autres. Nos efforts conjoints apportent du secours à ceux qui sont pauvres, affamés, dans la souffrance ou le chagrin, sauvant ainsi des âmes. Chaque évêque a à sa disposition le magasin du Seigneur qui est créé lorsque les membres fidèles donnent à l'évêque leur temps, leur talent, leur capacité et leur compassion, du matériel et des moyens financiers pour s'occuper des pauvres et édifier le royaume de Dieu sur la terre. Nous pouvons tous contribuer au magasin du Seigneur lorsque nous payons notre offrande de jeûne et mettons toutes nos ressources à la disposition de l'évêque pour aider les gens qui sont dans le besoin. Le monde change rapidement, mais les principes de l'entraide n'ont pas changé dans le temps parce qu'ils sont inspirés de Dieu. Ils sont une vérité révélée. Quand les membres de l'Église et leurs familles font tout ce qu'ils peuvent pour subvenir à leurs besoins fondamentaux, mais ne parviennent toujours pas à les satisfaire, l'Église est prête à aider. Les besoins à court terme sont immédiatement satisfaits et un plan pour aider le bénéficiaire à devenir autonome est mis au point. L'autonomie est la capacité de subvenir aux nécessités spirituelles et temporelles de la vie pour soi-même et sa famille. Lorsque nous augmentons notre niveau d'autonomie, nous augmentons notre capacité d'aider et de servir les autres, comme le Sauveur l'a fait. Nous suivons l'exemple du Sauveur lorsque nous prodiguons des soins aux nécessiteux, aux malades et aux affligés. Lorsque l'amour devient le principe qui guide les soins que nous prodiguons aux autres, le service que nous leur rendons devient l'Évangile en action. C'est l'Évangile dans toute sa beauté. C'est la religion pure. Dans mes diverses tâches au sein de l'Église, j'ai été profondément touchée par l'amour et la sollicitude des évêques et des dirigeantes de la Société de secours pour leurs ouailles. Lorsque j'étais présidente de Société de secours de Pieux au Chili au début des années 80, le pays a subi une profonde récession et le taux de chômage était de 30%. J'ai vu des présidentes de sociétés de secours héroïques et des instructrices visiteuses fidèles aller faire du bien dans une situation si dure. Elles incarnaient la description de Proverbe 31, verset 20. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Des sœurs dont la famille avait elle-même très peu aidaient constamment des gens qu'elles pensaient être davantage dans le besoin. J'ai alors compris plus clairement ce que le Sauveur a vu lorsqu'il a déclaré dans Luc 21, versets 3 et 4, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. » Quelques années plus tard, j'ai été témoin de la même chose en tant que présidente de société de secours en Argentine, lorsqu'une inflation galopante a frappé le pays et que l'effondrement économique qui a suivi a touché beaucoup de nos membres fidèles. J'en ai encore été témoin pendant mes récentes visites à Kinshasa, en République démocratique du Congo, à Antananarivo, à Madagascar et à Bulawayo, au Zimbabwe. Partout, des membres de paroisse et des sœurs de la société de secours en particulier continuent d'édifier la foi, de fortifier les personnes et les familles et d'aider les personnes dans le besoin. C'est stupéfiant de penser qu'une humble sœur ou un humble frère qui a un appel peut aller dans un foyer où il y a pauvreté, affliction, maladie ou détresse et peut apporter la paix, secours et bonheur. Quel que soit l'endroit où se trouve cette paroisse ou cette branche et que le groupe soit grand ou petit, chaque membre dans le monde entier a cette chance. Cela arrive tous les jours et est en train de se produire quelque part en ce moment même. Carla est une jeune mère de deux enfants. Brent, son mari, travaille de longues heures et a 2 heures de trajet aller-retour. Peu après la naissance de leur deuxième fille, elle a raconté l'expérience suivante. Le jour qui a suivi mon appel comme conseillère de la société de secours de ma paroisse, j'ai commencé à me sentir totalement dépassée. Comment pourrais-je jamais assumer la responsabilité d'aider à prendre soin des femmes de ma paroisse, alors que j'avais du mal ne serait-ce qu'à remplir mon rôle d'épouse et de mère d'une fillette de 2 ans très active et d'un bébé? Alors que je m'attardais sur ces sentiments, ma fillette est tombée malade. Je ne savais pas très bien quoi faire pour elle et comment m'occuper du bébé en même temps. C'est alors que Sœur Wasden, l'une de mes instructrices visiteuses, est venue chez moi à l'improviste. Ses enfants sont déjà grands et elle savait exactement ce qu'il fallait faire pour m'aider. Elle m'a dit ce que je devais faire pendant qu'elle se rendait à la pharmacie pour chercher certaines choses. Plus tard, elle a pris des dispositions pour que quelqu'un aille chercher mon mari à la gare afin qu'il puisse arriver rapidement à la maison pour m'aider. Sa réaction à ce que je crois être une inspiration du Saint-Esprit, ainsi que sa bonne volonté à me servir, ont été la confirmation dont j'avais besoin du Seigneur, qu'il allait m'aider à remplir mon nouvel appel. Notre Père Céleste nous aime et connaît notre situation et nos capacités propres. Bien que nous recherchions son aide par la prière, c'est généralement par l'intermédiaire d'une autre personne qu'il répond à nos besoins. Le Seigneur a dit « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » L'amour pur du Christ s'exprime lorsque nous rendons service de manière désintéressée. Le fait de s'aider mutuellement est une expérience sanctifiante qui élève le bénéficiaire et rend humble le donateur. Cela nous aide à devenir de vrais disciples du Christ. Le plan d'entraide a toujours été l'application de principes éternels de l'Évangile. Il pourvoit vraiment à la façon du Seigneur. renouvelons chacun notre désir de participer au magasin du Seigneur en étant une bénédiction pour les autres. Je prie le Seigneur de bénir chacun de nous en nous donnant un plus grand sens de la miséricorde, de la charité et de la compassion. Je plaide pour qu'il y ait un accroissement de notre désir et de notre capacité de toucher et d'aider les défavorisés, les personnes dans la détresse et celles qui souffrent, afin que leurs besoins soient satisfaits, que leur foi soit fortifiée et que leur cœur soit rempli de gratitude et d'amour. Que le Seigneur nous bénisse chacun dans nos efforts pour obéir à ses commandements, à son évangile et à sa lumière. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Je suis reconnaissant de l'inspiration qui a présidé au choix du cantique qui accompagne mon discours. Ai-je fait un peu de bien aujourd'hui? Cela m'a donné une petite idée. Je vous invite, mes frères et sœurs, à réfléchir à des expériences que tous ou presque tous, nous avons eues en rapport avec la lumière. La première a lieu lorsque nous entrons dans une pièce sombre et que nous appuyons sur l'interrupteur. Rappelez-vous comme la pièce est immédiatement remplie d'une lumière vive qui fait disparaître l'obscurité. Ce qui était auparavant invisible et indistinct devient net et visible. Cette expérience se caractérise par une reconnaissance immédiate et intense de la lumière. La deuxième expérience a lieu lorsque nous regardons la lumière de l'aube. Vous rappelez-vous l'augmentation lente et presque imperceptible de la lumière à l'horizon? Contrairement à la lumière allumée dans une pièce sombre, celle du lever du soleil ne jaillit pas immédiatement. Non, l'intensité de la lumière augmente graduellement et progressivement, et l'obscurité de la nuit est remplacée par l'éclat du matin. Et enfin, le soleil se lève à l'horizon. Mais la preuve visuelle de l'arrivée imminente du soleil est visible des heures avant que le soleil n'apparaisse à l'horizon. Cette expérience se caractérise par un discernement subtil et progressif de la lumière. Nous pouvons beaucoup apprendre sur l'esprit de révélation à partir de ces deux expériences ordinaires avec la lumière. Je prie pour que le Saint-Esprit nous inspire, nous instruise, tandis que nous nous concentrons maintenant sur l'esprit de révélation et les formes fondamentales sous lesquelles on reçoit la révélation. La révélation et la communication de Dieu à ses enfants sur la terre est l'une des grandes bénédictions associées au don et à la compagnie constante du Saint-Esprit. Joseph Smith, le prophète, a enseigné, je cite, « Le Saint-Esprit est un révélateur et nul homme ne peut recevoir le Saint-Esprit sans recevoir de révélation. » Fin de citation. L'esprit de révélation est accessible à quiconque reçoit, par l'autorité compétente de la prêtrise, les ordonnances salvatrices du baptême, par immersion, pour la rémission des péchés, et l'imposition des mains pour le don du Saint-Esprit, et qui agit avec foi pour obéir à l'injonction de la prêtrise. Recevez le Saint-Esprit. Cette bénédiction n'est pas limitée aux autorités présidentes de l'Église. Elle appartient, au contraire, et doit être en vigueur dans la vie de chaque homme, femme et enfant qui a atteint l'âge de responsabilité et contracte des alliances sacrées. Le désir sincère, la dignité, invite l'esprit de révélation dans notre vie. Joseph Smith et Oliver Cowdery ont acquis une expérience précieuse avec l'esprit de révélation lorsqu'ils ont traduit le livre de Mormon. Ses frères ont appris qu'ils pouvaient recevoir toute la connaissance nécessaire pour accomplir leur travail s'ils demandaient avec foi, d'un cœur honnête, croyant qu'ils recevraient. Et avec le temps, ils ont mieux compris que l'esprit de révélation opère de manière générale sous la forme de pensées et de sentiments qui se présentent dans notre esprit et notre cœur par le pouvoir du Saint-Esprit, comme le Seigneur le leur a enseigné. Or, voici, c'est là l'esprit de révélation. Voici, c'est là l'esprit par lequel Moïse fit traverser aux enfants d'Israël la mer rouge à pied sec. Je souligne l'expression « utilise-le » concernant l'esprit de révélation. Dans les Écritures, l'influence du Saint-Esprit est souvent décrite comme un murmure doux et léger et une voix d'une douceur parfaite. Puisque l'Esprit murmure doucement et délicatement, il est facile de comprendre pourquoi nous devons fuir les médias inconvenants, la pornographie, les substances et les comportements dangereux qui créent une dépendance. Ces outils de l'adversaire peuvent affaiblir et finir par détruire notre capacité de reconnaître les messages subtils de Dieu donnés par le pouvoir de son esprit et d'y réagir. Nous devons tous sérieusement réfléchir et méditer dans la prière sur la façon dont nous pouvons rejeter les séductions du diable et utiliser dans la justice l'esprit de révélation dans notre vie personnelle et notre famille. La révélation nous parvient de diverses façons, notamment, par exemple, par des rêves, des visions, des conversations avec des messagers divins et par l'inspiration. Il y a des révélations que l'on reçoit immédiatement et intensément, d'autres que l'on reconnaît progressivement et subtilement. Les deux expériences de la lumière que j'ai décrites nous aident à mieux comprendre ces deux formes de base de la révélation. Une lumière allumée dans une pièce sombre est comme un message reçu de Dieu rapidement, entièrement et d'un seul coup. Beaucoup d'entre nous ont eu l'expérience de cette forme de révélation lorsqu'ils ont reçu la réponse à une prière sincère ou des directives ou une protection nécessaire selon la volonté de Dieu et le moment choisi par lui. On trouve des descriptions de telles manifestations immédiates et intenses dans les Écritures. Elles sont racontées dans l'histoire de l'Église et se manifestent dans notre vie. Ces grands miracles ont vraiment lieu. Cependant, cette forme de révélation tend à être plus rare qu'habituelle. L'augmentation progressive de la lumière qui rayonne du soleil levant est comme un message que l'on reçoit de Dieu, ligne sur ligne, précepte sur précepte. Le plus fréquemment, la révélation est donnée par petites touches dans le temps et est accordée en fonction de nos désirs, de notre dignité et de notre préparation. Cette communication de notre Père Céleste se distille progressivement et doucement sur notre âme, comme la rosée des cieux. Cette forme de révélation tend à être plus habituelle que rare. Et on la voit se manifester dans l'expérience de Néphi, lorsqu'il essaie différentes approches avant de réussir à obtenir les plaques d'airain de la part de Laban. Pour finir, il est conduit par l'Esprit à Jérusalem, ne sachant pas d'avance ce qu'il va faire. Il n'apprend pas non plus d'un seul coup à construire un bateau d'une exécution habile. Mais le Seigneur lui montre, de temps en temps, de quelle manière il doit travailler les bois de charpente du bateau. Aussi bien l'histoire de l'Église que notre vie personnelle abondent en exemples de la façon dont le Seigneur nous fait parvenir à la révélation, ligne sur ligne, précepte sur précepte. Par exemple, les vérités fondamentales de l'Évangile rétabli n'ont pas été données à Joseph Smith, le prophète, en une seule fois, dans le bosquet sacré. Ces trésors d'une valeur inestimable ont été révélés lorsque les circonstances se justifiaient et que le moment était bon. Joseph S. Smith explique comment cette forme de révélation s'est produite dans sa vie. Je le cite. « Dans ma jeunesse, je demandais souvent au Seigneur de me montrer quelque chose de merveilleux pour que je puisse recevoir un témoignage. Mais le Seigneur m'a refusé les miracles et m'a montré la vérité ligne sur ligne, jusqu'à me faire connaître la vérité du sommet de ma tête à la plante de mes pieds, et jusqu'à ce que le doute et la peur n'aient plus du tout de place en moi. Il n'a pas eu besoin d'envoyer un ange des cieux, ni de me parler avec la trompette d'un archange pour cela. C'est par les murmures doux et légers de l'Esprit du Dieu vivant qu'il m'a donné le témoignage que je possède. Et c'est par ce principe et ce pouvoir qu'il donnera à tous les enfants des hommes une connaissance de la vérité qui leur restera. Et cela leur fera connaître la vérité, comme Dieu la connaît, et faire la volonté du Père, comme le Christ l'a fait. Jamais les manifestations miraculeuses, aussi nombreuses soient-elles, ne pourront conduire à pareil résultat. Fin de citation. Nous, les membres de l'Église, nous avons tellement tendance à mettre l'accent sur les manifestations spirituelles merveilleuses et spectaculaires que nous risquons de ne pas apprécier et même de ne pas remarquer les formes habituelles sous lesquelles le Saint-Esprit accomplit son œuvre. La simplicité même du moyen par lequel nous recevons de petites impressions spirituelles, par touches progressives, qui avec le temps et dans la totalité constituent la réponse désirée et l'orientation dont nous avons besoin, peut nous faire regarder au-delà du point marqué. J'ai parlé avec de nombreuses personnes qui remettent en question la force de leur témoignage et qui sous-estiment leur capacité spirituelle parce qu'elles ne reçoivent pas d'impressions fréquentes, miraculeuses ou fortes. Lorsque nous réfléchissons à l'expérience de Joseph dans le bosquet sacré, de Paul sur la route de Damas et d'Alma le Jeune, nous en arrivons peut-être à croire que quelque chose ne va pas ou nous manque si nous n'avons pas dans notre vie ces exemples célèbres et spirituellement frappants. Mes frères et sœurs, si vous avez eu des pensées ou des doutes semblables, sachez, je vous en prie, que vous êtes tout à fait normaux. Continuez simplement à avancer résolument dans l'obéissance et avec foi au Sauveur. Si vous agissez ainsi, vous ne pouvez faire fausse route. Joseph S. Smith a déclaré, je cite, « Montrez-moi des saints des derniers jours qui ont besoin de se nourrir de miracles, de signes et de visions pour les garder fermes dans l'Église, et je vous montrerai des membres qui ne sont pas droits devant Dieu et qui marchent des chemins glissants. Ce n'est pas par des manifestations merveilleuses que nous serons enracinés dans la vérité, mais c'est par l'humilité et l'obéissance fidèle aux commandements et aux lois de Dieu. » Fin de citation. Une autre expérience courante avec la lumière nous aide à apprendre une vérité supplémentaire concernant cette forme de révélation qu'est le ligne sur ligne, précepte sur précepte. Parfois, le soleil se lève un jour où il y a des nuages ou du brouillard. À cause du temps couvert, il est plus difficile de distinguer la lumière. Il est impossible de connaître le moment précis où le soleil se lève à l'horizon. Mais ce matin-là, nous avons néanmoins suffisamment de lumière pour voir que c'est une nouvelle journée et pour vaquer à nos affaires. De même, nous recevons de nombreuses fois la révélation sans savoir précisément comment ou quand nous la recevons. Un épisode important de l'histoire de l'Église illustre ce principe. Pendant le printemps de l'année 1829, Oliver Cowdery était maître d'école à Palmyra, dans l'État de New York. Lorsqu'il entendit parler de Joseph Smith et du travail de traduction du livre de Mormon, Oliver se sentit poussé à proposer son aide au jeune prophète. Il se rendit donc à Harmony, en Pennsylvanie, et devint le secrétaire de Joseph. Le moment de son arrivée et l'aide qu'il apporta furent essentiels à la parution du livre de Mormon. Par la suite, le Sauveur révéla à Oliver que toutes les fois qu'il avait prié pour être guidé, il avait reçu des instructions de l'Esprit du Seigneur. Le Seigneur déclara, « S'il n'avait pas été ainsi, tu ne serais pas venu là où tu te trouves en ce moment. Voici, tu sais que tu m'as interrogé et que j'ai éclairé ton esprit. Et maintenant, je te dis ces choses pour que tu saches que tu es éclairé par l'Esprit de vérité. » Oliver reçut donc une révélation par l'intermédiaire de Joseph Smith, le prophète, l'informant qu'il avait bien reçu une révélation. Apparemment, Oliver n'avait pas reconnu comment et quand il avait été guidé par Dieu et avait besoin de cet enseignement pour augmenter sa compréhension de l'Esprit de révélation. Ce qu'il avait fait, en substance, c'était marcher dans la lumière, tandis que le soleil se levait par un matin nuageux. Dans beaucoup des incertitudes et des difficultés que nous rencontrons dans la vie, Dieu nous demande de faire de notre mieux, de nous mouvoir et ne pas être mus, et d'avoir confiance en lui. Peut-être ne verrons-nous pas d'anges, n'entendrons-nous pas de voix divine et ne recevrons-nous pas d'impressions spirituelles renversantes, Peut-être irons-nous fréquemment de l'avant, en espérant et en priant, mais sans avoir l'assurance absolue que nous agissons conformément à la volonté de Dieu. Mais si nous respectons nos alliances et obéissons aux commandements, si nous essayons encore plus systématiquement de faire le bien et de nous améliorer, nous pouvons avancer avec l'assurance que Dieu guidera nos pas. Et nous pouvons parler avec l'assurance que Dieu inspirera nos paroles. C'est en partie le sens de l'Écriture qui déclare « Alors, ton assurance deviendra grande en la présence de Dieu. » Recherchez et appliquez convenablement l'esprit de révélation. Et je vous promets que vous marcherez à la lumière du Seigneur. Tantôt, l'esprit de révélation agira immédiatement et intensément. Tantôt, subtilement et progressivement, et souvent si délicatement que vous n'en serez peut-être même pas conscient. Mais quelle que soit la forme sous laquelle vous recevez cette bénédiction, la lumière qu'elle apporte illuminera et épanouira votre âme, éclairera votre intelligence, et vous dirigera et vous protégera, vous et votre famille. En ma qualité d'apôtre, je témoigne que le Père et le Fils vivent. L'esprit de révélation est réel et peut opérer et opère dans notre vie et dans l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Je témoigne de ces vérités. Au nom sacré de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
We are especially grateful.
Nous sommes spécialement reconnaissants pour le chœur du tabernacle, pour les organistes et ceux qui les ont dirigés, de la belle musique qu'ils nous ont interprétée ce matin. Le dernier orateur de cette session sera notre prophète bien-aimé, Thomas S. Monson. Le chœur interprétera le cantique de clôture, l'Esprit du Dieu Saint. Tad R. Callister, des 70, fera la prière de clôture. Président Monson.
My beloved brothers and sisters,
mes frères et sœurs bien-aimés, je tiens à dire mon amour et souhaiter la bienvenue à chacun d'entre vous. Je prie pour que notre Père Céleste guide mes pensées et inspire mes paroles, tandis que je m'adresse à vous aujourd'hui. Je vais commencer par une remarque ou deux concernant les merveilleux messages que nous avons entendus ce matin de Sir Allred et de l'évêque Burton concernant le programme d'entraide de l'Église. Comme cela a été dit, c'est l'année du 75e anniversaire de ce programme inspiré qui a béni tant de gens. J'ai eu la bénédiction de connaître personnellement certains de ceux qui ont été à l'origine de cette grande œuvre, des hommes de compassion et de vision. Comme frère Burton et Sir Allred l'ont tous deux mentionné, l'évêque de la paroisse a reçu la responsabilité de prendre soin des personnes dans le besoin qui demeure dans les limites de sa paroisse. C'est la bénédiction que j'ai eue quand, jeune évêque à Salt Lake City, j'ai présidé une paroisse de 1080 membres, dont 84 veuves. Beaucoup de gens avaient besoin d'aide. Comme j'étais reconnaissant pour le programme d'entraide de l'Église et pour l'aide de la société de secours et des collèges de prêtrise, je déclare que le programme d'entraide de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours est inspiré du Dieu Tout-Puissant. Maintenant, mes frères et sœurs, cette conférence marque la troisième année depuis que j'ai été soutenu comme président de l'Église. Bien sûr, ces années ont été chargées, remplies de nombreux défis, mais aussi de bénédictions innombrables. L'occasion que j'ai eue de consacrer et de reconsacrer des temples fait partie de celles qui sont les plus agréables et les plus sacrées. Et c'est du temple que je désire vous parler aujourd'hui. Au cours de la conférence générale d'octobre 1902, le président de l'Église, Joseph F. Smith, a exprimé dans son discours d'ouverture l'espoir qu'un jour nous aurions des temples qui seraient construits dans différentes parties du monde, là où ils seraient nécessaires pour la facilité de nos membres. Au cours des 150 premières années qui ont suivi l'organisation de l'Église, de 1130 à 1980, 21 temples ont été construits, dont ceux de Kirtland en Ohio et Nauvoo en Illinois. Comparez cela aux 30 dernières années, au cours desquelles 115 temples ont été construits et consacrés. À l'annonce faite hier de 3 nouveaux temples, s'ajoutent 26 temples en construction ou en phase de préconstruction. Ces chiffres continueront de grandir. L'objectif qu'espérait voir Joseph S. Smith en 1902 est en train de devenir une réalité. Notre désir est de rendre le temple aussi accessible que possible à nos membres. L'un des temples en cours de construction est celui de Manaus, au Brésil. Il y a bien des années, j'ai lu l'histoire d'un groupe de plus de 100 membres, parti de Manaus, situé au cœur de la forêt amazonienne, pour se rendre au temple le plus proche à l'époque, situé à São Paulo, à quelques 4000 kilomètres de leur ville. Ces saints fidèles ont voyagé par bateau pendant 4 jours sur l'Amazone et ses affluents. Après leur voyage sur l'eau, ils sont montés dans des autocars pour encore 3 jours de voyage sur des routes accidentées avec très peu à manger et aucun endroit confortable pour dormir. 7 jours et 7 nuits plus tard, ils sont arrivés au peuple de Sao Paulo, où ils ont accompli des ordonnances de nature éternelle. Le trajet du retour a bien sûr été tout aussi difficile. Toutefois, ils avaient reçu les ordonnances et les bénédictions du temple. Et bien que leurs porte-monnaies fussent vides, ils étaient eux-mêmes remplis de l'esprit du temple et de reconnaissance pour les bénédictions qu'ils avaient reçues. Aujourd'hui, des années plus tard, nos membres de Manaus se réjouissent de voir leur propre temple prendre forme sur les rives du Rio Negro. Les temples apportent la joie à nos membres fidèles partout où on les construit. Le récit des sacrifices consentis pour recevoir les bénédictions que l'on ne trouve que dans les temples de Dieu ne manque jamais de me toucher et de renouveler ma gratitude à l'égard de ces édifices. Voici le récit de Tihi et Tarareinamu Tam et leurs 10 enfants. Toute la famille est entrée dans l'église au début des années 60, quand les missionnaires sont allés dans leur île, située à environ 150 kilomètres au sud de Tahiti. Rapidement, ils sont venus à désirer les bénédictions du scellement d'une famille éternelle dans le temple. À cette époque, le temple le plus proche de chez eux était celui d'Hamilton, en Nouvelle-Zélande, 4000 kilomètres au sud-ouest, accessible uniquement par un transport aérien coûteux. La grande famille Mutam, qui gagnait maigrement sa vie sur une petite plantation, n'avait pas d'argent pour les billets d'avion. Et il n'y avait pas non plus de possibilité de trouver un emploi sur leur île du Pacifique. Alors, frère Mutam et son fils Gérard ont pris la dure décision de rejoindre un autre de ses fils qui travaillait dans les mines de nickel de Nouvelle-Calédonie, 5000 kilomètres à l'ouest. L'employeur prenait en charge des frais du voyage pour aller aux mines, mais ne payait pas le voyage de retour. Les 3 hommes de la famille Mutam ont travaillé pendant 4 ans dans les mines tropicales de nickel à creuser et à charger le lourd minerai. Une fois par an, frère Mutam rentrait seul chez lui pour un bref séjour, laissant ses fils en Nouvelle-Calédonie. Après 4 ans d'un travail éreintant, frère Mutam et ses fils avaient épargné suffisamment d'argent pour emmener toute leur famille au temple Nouvelle-Zélande. Ils y sont tous allés, à l'exception d'une fille. Ils furent scellés pour le temps et pour l'éternité, une expérience indescriptible et joyeuse. Frère Mutam rentra directement en Nouvelle-Calédonie, où il travailla pendant plus de 2 ans pour payer le voyage de la fille qui n'avait pas pu aller au temple avec eux, une fille mariée avec son enfant et son mari. Devenus âgés, frère et sœur Mutam ont souhaité œuvrer dans le temple. Quand le temple de Papeete a été construit et consacré, ils y ont accompli 2 missions. Mes frères et sœurs, les temples sont plus que de la pierre et du mortier. Ils sont faits de foi et de jeûne. Ils sont construits avec des épreuves et des témoignages. Ils sont sanctifiés par le sacrifice et le service. Le premier temple construit dans notre dispensation fut celui de Kirtland, en Ohio. À l'époque, les Sa étaient pauvres et pourtant, le Seigneur leur commanda de construire un temple. Et c'est ce qu'ils firent. Heber C. Kimball écrit à propos de cette expérience. Seul le Seigneur connaît les scènes de pauvreté, de tribulation et de détresse par lesquelles nous sommes passés pour accomplir cela. Fin de citation. Puis, après tout ce qui avait été soigneusement achevé, les saints furent forcés de quitter l'Ohio et leur temple bien-aimé. Ils finirent par trouver refuge, bien que temporairement, sur les rives du Mississippi, dans l'État d'Illinois. Ils appelèrent leur colonie Nauvoo et étant disposés à donner une fois encore tout ce qu'ils avaient, leur foi étant demeurée intacte, ils construisirent un autre temple à leur Dieu. Cependant, les persécutions firent de nouveau rage, et à peine le temple Nauvoo était-il achevé, qu'ils étaient chassés une fois de plus de chez eux, et partaient chercher refuge dans un endroit désert dont personne d'autre ne voulait. Le combat et le sacrifice reprirent pendant les 40 ans qu'ils travaillèrent pour ériger le temple de Salt Lake City, qui se dresse majestueusement sur le pâté de maison juste au sud du centre de conférence dans lequel nous sommes aujourd'hui. Il a toujours fallu un certain degré de sacrifice pour construire un temple et le fréquenter. On ne compte plus ceux qui ont travaillé opiniâtrement afin d'obtenir pour eux-mêmes et pour leur famille les bénédictions que l'on trouve dans les temples de Dieu. Pourquoi est-ce que tant de personnes sont disposées à donner autant pour recevoir les bénédictions du temple? Les personnes qui comprennent les bénédictions éternelles qui proviennent du temple savent qu'aucun sacrifice n'est trop grand, aucun prix n'est trop élevé, aucun effort n'est trop pénible pour recevoir ces bénédictions. Il n'y a jamais trop de kilomètres à parcourir, trop d'obstacles à vaincre, ni trop d'inconfort à endurer. Elles comprennent que ce sont les ordonnances salvatrices du temple qui nous permettront de retourner un jour à notre Père céleste, dans les liens d'une famille éternelle, et d'être doté des bénédictions et du pouvoir d'en haut, et que cela vaut tous les sacrifices et tous les efforts. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous n'ont pas à subir de grandes épreuves pour se rendre au temple. 80% des membres de l'Église d'aujourd'hui vivent à moins de 300 km d'un temple, et pour la plupart, la distance est encore plus courte. Si vous êtes allé au temple pour vous-même, et si vous vivez à une distance relativement proche d'un temple, votre sacrifice sera peut-être de mettre de côté du temps dans votre vie affairée, pour vous y rendre régulièrement. Il y a beaucoup à mettre de côté, il y a beaucoup à faire dans nos temples pour les personnes qui attendent au-delà du voile. En faisant les ordonnances pour elles, nous comprenons que nous accomplissons ce qu'elles ne peuvent pas faire pour elles-mêmes. Joseph F. Smith a affirmé dans une déclaration, je cite, « Grâce aux efforts que nous faisons en leur faveur, les chaînes de leur servitude tomberont et les ténèbres qui les entourent se dissiperont, afin que la lumière brille pour eux, qu'ils apprennent dans le monde des esprits l'œuvre qui a été accomplie pour eux par leurs descendants ici-bas, et qu'ils se réjouissent avec vous de ces devoirs que vous avez accomplis. » Fin de citation. Mes frères et sœurs, cette œuvre, c'est à nous de la faire. Dans ma propre famille, certaines des expériences les plus sacrées et les plus précieuses sont celles de ces moments où nous nous réunissons ensemble au temple pour accomplir des ordonnances de scellement pour nos ancêtres décédés. Si vous n'êtes pas encore allé au temple, ou si vous y êtes allé, mais qu'actuellement vous n'êtes pas qualifié pour avoir une recommandation, il n'est pas d'objectif plus important pour vous que de devenir digne d'aller au temple. Votre sacrifice peut consister à mettre votre vie en accord avec ce qui est requis pour recevoir une recommandation, peut-être en abandonnant de vieilles habitudes qui vous disqualifient. Ce peut être la foi et la discipline de payer votre dîme. Quoi qu'il faille faire, qualifiez-vous pour entrer dans le temple de Dieu. Obtenez une recommandation à l'usage du temple et considérez-la comme un bien précieux, parce que c'est ce qu'elle est. Tant que vous n'êtes pas allé dans la maison du Seigneur et n'avez pas reçu les bénédictions qui vous y attendent, vous n'avez pas reçu tout ce que l'Église a à offrir. Les bénédictions les plus importantes, les bénédictions suprêmes réservées aux membres de l'Église, sont celles que nous recevons dans les temples de Dieu. Maintenant, mes jeunes amis, qui êtes en pleine adolescence, ayez toujours le temple en vue. Ne faites rien qui vous interdise d'y entrer et de prendre part aux bénédictions sacrées éternelles qu'on y trouve. Je félicite ceux d'entre vous qui déjà vont régulièrement au temple pour accomplir des baptêmes pour les morts, vous levant de bonne heure afin de faire ces baptêmes avant que l'école commence. Je ne connais pas de meilleur moyen de démarrer une journée. Parents qui avaient de jeunes enfants, je vais vous citer le conseil avisé du président Kimball. Il a dit, « Ce serait une bonne chose si les parents mettaient dans toutes les chambres de leur maison la photo d'un temple, afin que leurs enfants, depuis le plus jeune âge, puissent les voir chaque jour, jusqu'au moment où cela fera partie de leur vie. Quand ils auront l'âge de prendre la décision très importante d'aller au temple, cette décision sera déjà prise. » Fin de citation. À la primaire, les enfants chantent. « Oh, j'aime voir le temple. Un jour, j'y entrerai. Je promettrai au Père d'obéir et d'aider. Je vous supplie d'enseigner l'importance du temple à vos enfants. Le monde est un endroit dans lequel il peut être éprouvant et difficile de vivre. Nous sommes souvent entourés de choses qui nous tirent vers le bas. En allant, vous et moi, dans les saintes maisons de Dieu, et en nous souvenant des alliances que nous y contractons, nous sommes davantage capables de supporter toutes les épreuves et de surmonter toutes les tentations. Dans ces sanctuaires, nous trouvons la paix. Nous sommes ressourcés et fortifiés. Maintenant, mes frères et sœurs, j'aimerais parler encore d'un temple avant de terminer. Dans un avenir pas si lointain, quand de nouveaux temples prendront forme de par le monde, l'un d'entre eux s'élèvera dans une ville qui est née il y a plus de 2500 ans. Je veux parler du temple en construction à Rome. Chaque temple est une maison de Dieu, remplissant les mêmes fonctions et avec les mêmes bénédictions et des ordonnances identiques. Le temple de Rome, à la différence des autres, est construit sur l'un des hauts lieux historiques du monde, une ville où les anciens apôtres, Pierre et Paul, ont prêché l'évangile du Christ et où tous deux sont morts en martyrs. En octobre dernier, quand nous nous sommes rassemblés dans un lieu verdoyant du quartier nord-est de Rome, j'ai eu l'occasion de faire la prière de consécration avant l'inauguration des travaux. Je me suis senti poussé à demander au sénateur Lucio Malan et au maire adjoint de Rome, Giuseppe Ciardi, d'être parmi les premiers à donner le premier coup de pelle. Chacun d'eux avait pris part à la décision de nous permettre de construire un temple dans leur ville. Je voulais qu'ils mettent le pied à la pelle. Je voulais qu'ils sentent le sol qu'il fallait creuser. Ils ont souri. Et nous avons fait ce que nous voulions. Le ciel était nuageux, mais il faisait chaud et il menaçait de pleuvoir. Mais il n'est pas tombé plus d'une goutte ou deux. quand le magnifique chœur a chanté en italien l'air merveilleux de l'Esprit du Dieu Saint, on aurait cru que les cieux et la terre s'unissaient en un cantique glorieux de louange et de gratitude au Dieu Tout-Puissant. Il était impossible de retenir ses larmes. Un jour viendra où les fidèles dans cette ville, la ville éternelle, recevront les ordonnances de nature éternelle dans une maison sacrée de Dieu. J'exprime ma reconnaissance éternelle envers mon Père Céleste pour le temple qui est en cours de construction à Rome et pour tous nos temples, où qu'ils soient. Chacun d'eux est un phare pour le monde, l'expression de notre témoignage que Dieu, notre Père éternel, vit, qu'il désire nous bénir et qu'il bénit réellement ses fils et ses filles de toute génération. Chacun de nos temples est l'expression de notre témoignage que la vie au-delà de la tombe est aussi réelle et aussi certaine que la vie ici-bas. Mes frères et sœurs, j'en témoigne. Puissions-nous faire tous les sacrifices nécessaires pour aller au temple et avoir l'esprit du temple dans notre cœur et dans notre foyer. Puissions-nous suivre les pas de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui a fait le sacrifice suprême pour nous, afin que nous puissions avoir la vie éternelle et l'exaltation dans le royaume de notre Père Céleste. C'est là ma prière sincère, et je l'offre au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, le Seigneur. Amen.
Amen. Our Father in heaven, how
notre Père céleste, combien nous sommes reconnaissants des conseils avisés que nous avons reçus aujourd'hui, combien nous sommes reconnaissants des profonds messages qui ont révélé notre ta volonté pour ce jour, et combien nous sommes reconnaissants de la musique émouvante qui nous a touchés profondément, et des impressions du Saint-Esprit qui ont répondu à nos besoins particuliers. Nous sommes reconnaissants, Père, du sacrifice incomparable de ton Fils Jésus-Christ, qui nous permet de faire face à toute adversité et toute épreuve de la vie, avec l'assurance qu'il y a un remède et une solution qui nous permettront d'avoir la vie éternelle. Nous te prions maintenant, Père, de nous permettre d'emporter ces vérités avec nous et ces impressions, et de méditer à leurs propos et de les intégrer à notre vie, et d'être des disciples non seulement par la parole mais par les actes. Et nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus-Christ, que nous savons être le Sauveur et le Rédempteur du monde, Jésus-Christ. Amen.
This has been a broadcast of the 181st.
Vous venez d'assister à une session de la 181e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique était interprétée par le chœur du Tabernacle Mormon. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.